c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, dans une poignée de secondes, Laurent Kérusoré va venir nous rejoindre, celui qui a incarné Thomas Marcy dans Plus belle la vie, va venir nous faire découvrir en avant-première son premier single Barbara, qui va sortir mercredi à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. En fin d'émission, Alexandra Redamiel, la directrice des variétés et des divertissements, notamment de France Télévisions, va venir nous parler des projets de la chaîne. On va parler de l'Eurovision avec Alexandra. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à la fiction Les Siffleurs. À cette occasion, la créatrice Nathalie Marchak et la jeune Ludmila Makoski, la jeune héroïne Lila, sera notre invitée exceptionnelle. On reparlera également de BDE qui est sorti la semaine dernière sur Prime avec Lucien Jean-Baptiste et Elena Noguera. Et on aura également le plaisir aujourd'hui de mettre en avant Le Secret de la Grotte avec Elodie Varlet qui sera notre invitée exceptionnelle.
La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Allez, on va parler musique aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé dans 2 jours. C'est la journée nationale où les femmes sont mises à l'honneur. Et s'il y en a un qui met les femmes à l'honneur dans son titre, on connaissait Thomas Marcy dans Plus belle la vie. Eh bien, on va découvrir Laurent Kérusoré, chanteur, qui nous avait quitté avec tout le bonheur du monde dans le dernier épisode de Plus belle la vie. Eh bien, Laurent Kérusoré nous offre un titre exceptionnel, un single qui sort mercredi justement pour cette journée spéciale intitulée Barbara. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour à vous.
Merci d'être là, ça nous fait plaisir de t'avoir. Tu vois, on avait honoré une promesse, on avait dit, on sera là pour tous vos projets après Plus belle la vie. Et franchement,
ça fait plaisir aussi d'être là.
Eh ben, c'est un super projet, dis-moi, Barbara, dans 2 jours. Et si on connaissait évidemment un peu moins Laurent Kérusoré, chanteur, on connaissait plus l'acteur, évidemment. On a découvert avec talent tout le bonheur du monde qui a fait pleurer des millions de gens fin novembre. Mais là, c'est Barbara. Comment est venue l'idée de ce titre? Raconte.
Alors, tout d'abord, c'est Didier Mellet, l'auteur-compositeur. C'était une rencontre assez fabuleuse pour moi il y a quelques années. C'est un sujet que lui et moi voulions développer, mais pas d'une manière dramatique, j'allais dire, même si le sujet est dramatique. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la misogynie et des gestes que certains hommes pourraient se permettre sur la femme dans les boîtes de nuit ou même dans les transports en commun. C'était un sujet important pour nous. Et justement, on voulait le développer d'une manière... pas dans une chanson, on va dire, très dramatique. Donc la chanson est plutôt rythmée, plutôt pop-rock. Et voilà, quoi, c'était un but pour nous, mais c'était surtout important pour nous d'en parler. Voilà.
Alors si Thomas Marcy a rythmé, évidemment, ces 20 dernières années quasiment dans Plus belle la vie, c'est une face assez méconnue, mais tu chantes depuis longtemps. C'est quelque chose qui est très important pour toi, la chanson.
Ah, c'est vital. C'est-à-dire que le matin, je me réveille avec de la musique, des chansons. Ça fait partie de ma vie. Quand j'étais gamin, moi, je suis issu d'une famille de musiciens du côté de mon père. Donc, tous jouaient d'un instrument. Moi, hélas, on ne m'a jamais fait apprendre le solfège. On me disait d'aller en bout de table pour chanter. Ce que j'ai fait. Et du coup, alors, certes, mon répertoire est plutôt chanson française, Mouloudji, Moustaki, Aznavour, Brel, Colette Renard. Enfin, moi, je suis très, j'adore la chanson française et j'adore les textes. Voilà, j'aime beaucoup les textes. Alors, il y a quelques années, justement, j'ai eu la chance avec Emma Chaud, Michel Habert, de me produire à l'Olympia et à Bobino, et ça a été une expérience pour moi fabuleuse. Je le raconte un petit peu, enfin, je le raconte souvent, mais évidemment, je me sens très heureux devant une caméra. Puisque c'est mon métier, sur une scène au théâtre. Mais ce jour-là, le premier jour quand le rideau s'est ouvert sur moi à l'Olympia, je me suis jamais senti aussi vivant. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression que mes pieds prenaient racine sur la scène. Et là, je me suis dit, Laurent, il faut pas que tu lâches ça. Ouais. C'est une partie intégrante de ta vie. Même si je reste un acteur, c'est-à-dire, c'est pas une nouvelle vie dans la chanson. Hein. Je reste très attaché à mon métier. Mais c'est autre chose qui fait partie de moi, qui fait partie de mon corps. Voilà.
Alors Barbara aura aussi un très beau clip qui a été tourné d'ailleurs en boîte de nuit en novembre dernier, où même Joachim Latsko te fait une petite apparition. Mais tous les copains étaient là pour te soutenir hein, dans cette aventure.
Alors ça a été très touchant. Alors voilà, ça aussi c'est plus belle la vie. J'allais dire pour résumer, alors maintenant c'est presque un terme, plus belle la vie. Quand c'est plus belle la vie, c'est que c'est vraiment chouette. C'est les copains, c'est des belles aventures.
On a l'impression que c'est la famille quoi.
Mais c'est ça. Et quand Didier Mellet, l'auteur, a publié sur les réseaux sociaux qu'on avait besoin de gens pour participer à notre clip, en une demi-heure, je crois qu'on avait presque une centaine de personnes. Dont des techniciens, des caméramans, des chefs-op, une maquilleuse, beaucoup de figurants qui avaient déjà qui figuraient dans Plus belle la vie. Du coup, ça a été assez touchant pour nous et on a passé d'ailleurs une journée géniale. Et nous, avant, quand la journée s'est terminée, on allait prendre la parole avec Didier pour les remercier tous. En fait, ils nous ont devancé, tous les gens qui ont participé sont venus nous remercier. Du coup, on s'est dit, il se passe quand même quelque chose de très sympa. Surtout qu'on a quand même passé une très belle journée dans la musique, voilà, à danser. Il y a pire quand même. Mais oui, je tiens quand même à dire que ce qu'on fait avec Didier, c'est du fait maison. C'est-à-dire que la chanson a été enregistrée dans mon salon. Parce que j'ai une maison très très bien isolée, du coup on peut se permettre. Donc mon salon se transforme tout de suite en studio de musique. Le clip a été fait avec les copains. Ouais. On n'a aucune maison de disque derrière nous. C'est fait avec un peu d'argent et beaucoup d'amour.
Mais c'est ça qui est chouette. Est-ce que Barbara pourrait être le précurseur d'un album que tu prépares?
Alors c'est vrai qu'avec Didier on a pas mal de chansons. Il a pas mal de chansons sur son bureau. On a déjà enregistré. Alors album ou ce qu'on appelle un OP. Puisque aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les albums dans leur intégralité. C'est plutôt des 4-5 titres. Donc pour l'instant, on est en pourparlers là-dessus, mais disons qu'on a encore plein de titres à venir.
En tout cas, on va écouter Barbara dans un instant, puisqu'on va l'écouter en avant-première. Donc ça, je suis super heureux de pouvoir faire partager ça à nos auditeurs, de pouvoir faire écouter ce single qui sortira donc mercredi, on rappelle, hein, à l'occasion de la Journée nationale des femmes. Laurent, il y a la musique, évidemment, mais je suppose que t'as pas tiré un trait, au contraire, sur ta carrière de comédien. Alors la bonne nouvelle, elle vient de chez les 25, qui va reprendre des rediffusions de Plus belle la vie dans quelques jours. Et ça, c'est une super nouvelle pour les fans. J'imagine que t'as été inondé de messages d'espoir des fans qui ont tellement hâte de vous retrouver tous.
Ben oui, je suis encore surpris. Je le dis, c'est-à-dire que nous, les acteurs, en fait, on nous a dit voilà, ça s'arrête, donc il fallait bien qu'on aille de l'avant et puis qu'on cicatrise un petit peu parce que c'est 18 ans quand même de notre vie. Mais je suis toujours très ému et très très surpris aussi de voir que le public est toujours avec nous et que pour eux c'est toujours aussi frais quoi. C'est comme si l'annonce était faite il y a quelques jours.
Ah oui.
Je vois les gens dans la rue, ils m'arrêtent pour dire alors quand est-ce que vous allez reprendre, vous nous manquez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai publié il y a quelque temps quelques petites vidéos de la série il y a longtemps. Et la plupart des gens me disaient, ça nous manque, ça nous fait un bien fou de vous revoir.
Et aujourd'hui, 6 mars, ça fait juste un tout petit peu plus d'un an que les premières rumeurs de l'arrêt de la série ont commencé à fuiter, notamment dans le Figaro en février l'année dernière. Donc tout ça s'est passé tellement vite. C'est vrai que ce soit pour vous les fans, c'est assez fou, quoi.
J'ai pas senti du tout l'année passée. Disons que j'ai profité de la vie, mais c'est vrai que il y a un an, presque jour pour jour, les rumeurs devenaient plus véritables. Et c'est vrai qu'on tremblait un petit peu en disant « Non, c'est pas possible, ils vont au moins nous laisser 20 ans ». Eh ben non, l'annonce a été dure pour nous, émotionnellement, parce qu'on est une famille, on est vraiment une famille, on a vraiment été liés. On nous dit « Voilà, vous ne vous reverrez plus, la série s'est terminée, les décors vont être démontés ». Je peux vous assurer, quand vous avez passé 18 ans sous les mêmes projecteurs, avec les mêmes personnes, ça fait un vide et ça peut être vertigineux même.
Ouais, je me doute, je comprends.
Éliminer la mine, la soif de mes libéraux. Éliminer la mine, la soif de mes libéraux. Éliminer la mine, la soif de mes libéraux. Barbara,
se retrouve dans un instant avec les secrets de la grotte, avec les siffleurs, c'est nos coups de cœur télé. Alors à tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le Talk Show Radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré à la mini-série Les Siffleurs qui sera diffusée à partir de mercredi sur France 2 à 21h10. Une mini-série importante aujourd'hui sur le harcèlement de rue qui a été réalisé, créé, co-scénarisé par Nathalie Marchac et qui est justement notre invitée. On va en parler avec vous Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un sujet important dont sont victimes aujourd'hui 6 femmes sur 10 qui ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. Et cette mini-série Les Siffleurs se veut suivre le parcours justement de Lila, incarnée par Ludmila Makovsky, qu'on va recevoir justement dans un instant, qui décide de prendre ses harceleurs en photo pour les dénoncer publiquement. Ça va y jouer des tours, évidemment. Comment est venue l'idée des siffleurs déjà pour commencer, Nathalie?
Alors l'idée est venue déjà de mon vécu personnel, puisque comme beaucoup de femmes, comme vous l'avez dit, eh bien oui, il m'est arrivé d'être harcelée dans la rue, agressée même, au-delà des sifflements, et que j'ai mis du temps un petit peu à y réfléchir, à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi, etc. Et puis à un moment donné, avec aussi toute cette jeune génération de femmes qui, elles, considèrent que ben non, en fait, c'est pas forcément normal d'être une proie à chaque fois qu'on sort dans la rue, et ben ça m'a un peu réveillée. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai vu donc un véritable compte Instagram avec une jeune femme. Ce compte s'appelait @dearcatcallers. Et cette jeune femme, à chaque fois qu'elle se faisait harceler, prenait un selfie d'elle avec son harceleur. Et je me suis dit que c'est très courageux. Et je me suis demandé qu'est-ce qui lui arriverait en même temps à cette jeune femme. Et là, c'est devenu un peu ben voilà l'histoire de la mini-série. Et tout à coup, au bout de quelques photos postées, elle disparaissait. Est-ce que tous ces harceleurs deviennent des suspects potentiels? Et je me suis dit, c'est intéressant de ramener la notion de danger, parce qu'on a tendance à se dire, bah, finalement, pas si grave, hein. Il y a eu pas mal de personnalités qui avaient dit, oh, faut aussi laisser la liberté d'importuner, donc c'est pas si grave de se faire un peu, voilà, siffler dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe tout à coup quand on ramène la notion de danger? Qu'est-ce qui se passe si une de ces jeunes femmes disparaît?
Nathalie, c'est symbolique de lancer cette mini-série mercredi. 8 mars, on sait que c'est une journée importante pour les femmes, ce 8 mars. C'est vraiment symbolique de lancer cette série-là, c'était voulu.
Oui, je crois que c'était une volonté de France Télévisions et je les en remercie. Je trouve que c'est un signal très fort.
Ouais.
France Télévisions qui œuvre aussi beaucoup pour les femmes, pour aussi la parité entre ses réalisateurs et ses réalisatrices. Donc oui, je suis très heureuse de cette date. Je trouve que c'est un symbole fort. D'autant que c'est, je pense, une mini-série qui s'adresse aux hommes et aux femmes, parce que on n'est pas non plus simplement en train de dénoncer ou de juger. On s'interroge, voilà, au cours d'une enquête, d'un polar, on s'interroge sur tous ces sujets-là. Donc je trouve ça très fort symboliquement que ce soit diffusé pour la Journée internationale des droits des femmes.
Alors, ce qui est bien, oui, c'est vrai, vous le disiez, c'est pas un procès, cette fiction, c'est des constatations, c'est, voilà, c'est quelque chose, on dénonce des faits, mais c'est pas un procès. C'est vraiment tourné de cette façon-là, c'est ça que j'ai bien aimé.
Oui, j'ai essayé de ne jamais être caricaturale et de m'intéresser aussi au profil de ces hommes qui, par moment, ben, voilà, franchissent une ligne ou passent à l'acte et de se dire, mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que quelque chose vrille ou qui s'y sent autorisé ou... Je pense que c'est passionnant de s'intéresser à tout ça, de s'interroger, de faire un espèce de voilà de constat aujourd'hui de notre société. Moi je le dis, c'est vrai qu'il y a un personnage qui le dit aussi, c'est un peu le combat d'ailleurs du personnage interprété par Ludmila Makovsky, de dire mais voilà, en fait nous les femmes on a des pulsions sexuelles aussi, mais on s'autorise pas quand un homme nous plaît dans la rue à le siffler, à lui dire allez et tout, suis-moi, viens chez moi, machin, tout ça. Donc qu'est-ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, on pense que c'est normal de faire ça à une femme? Voilà, ça m'intéresse de me poser ces questions et dans le cadre d'un polar haletant.
Ouais, c'est vrai. Alors, Lila va disparaître et c'est toute une enquête qui va être faite pour la retrouver. Que s'est-il passé? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Le casting est brillant autour de Ludmila et Marion Delage, Louise Massin, Nadia Farest, Stéphane Monpetit, que les fans d'Un si grand soleil vont être heureux de retrouver. Aussi, Léo Legrand, Antoine Chappé. Il y a vraiment du très beau monde, en tout cas, autour de Ludmila.
Charles Berling,
bien sûr, le grand Charles Berling.
Voilà, et je le souligne parce que c'est vrai qu'il joue un rôle d'homme trouble et c'était vraiment aussi extrêmement courageux de sa part et je trouve qu'il le fait avec une immense humanité. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passe à un moment donné, ce qui se passe dans ces moments un peu charnières où tout à coup ça bascule. Ouais, donc j'ai un beau casting, j'ai été entouré de magnifiques acteurs.
Bon, merci en tout cas Nathalie d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce et juste après on va donner la parole à Lunila justement pour voir du côté comédienne comment s'est passé ce tournage, de quelle façon aussi elle s'implique là-dedans, et on va en parler avec Lunila dans un instant. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous.
Merci. Si je peux dire une dernière chose.
Bien sûr.
Voilà, moi ce que j'adorerais, c'est que les gens regardent en famille, parce que c'est vrai que ce qu'on va entendre paraît entre guillemets un peu violent verbalement, mais c'est vraiment l'occasion de regarder en famille, de mélanger les générations, c'est vraiment tout public pour parler de ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a eu effectivement des gens qui sont venus en avant-première et qui ne devinaient pas que c'était arrivé parfois à leur fille, à leur nièce, etc. Et c'est vraiment l'occasion d'en parler. Donc voilà, j'espère que les gens se rassembleront en famille pour regarder.
Oui, regarder en famille, et puis il faut pas oublier que l'éducation commence jeune. Et voilà, n'hésitez pas à regarder, c'est regardable sans problème avec vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y voir, ça pourra peut-être éveiller conscience et éviter plus tard justement ces débordements-là. Merci beaucoup Nathalie.
Absolument. Merci à vous. Au revoir.
La bande annonce des siffleurs, c'est mercredi à 21h10 sur France 2. Juste après, on se retrouve avec Ludmila Makoski.
Bon temps.
Vous n'avez pas une idée de qui pourrait vouloir lui faire du mal?
Je comprends en photo, toi.
Tous ces hommes l'ont agressé?
Harcelé. Lila, elle a le courage de dénoncer le harcèlement de rue.
Tu peux m'expliquer pourquoi Lila avait l'intention de poster cette photo de toi avec elle?
Inédit, les siffleurs. Avec Nadia Farès et Charles Berling, mercredi 8 mars à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Et de retour, donc, dans Suite on écoute la télé spéciale Les Siffleurs. C'est diffusé donc mercredi à 21h10 sur France 2. Et après Nathalie Marchat, quand vous l'avez promis, et Ludmila Makoski qui est avec nous. Bonjour Ludmila.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous incarnez Lila, donc, dans cette fiction. Ludmila, un rôle difficile à la fois. Est-ce que vous êtes sentie un peu investie d'une mission quand même, en quelque sorte, dans ce rôle de Lila?
Bah c'est vrai que naturellement, enfin malgré moi, je me suis retrouvée à incarner Lila et à avoir vraiment envie de la défendre, parce que c'est un sujet très très actuel aujourd'hui, et la place de la femme est toujours un peu remise en question encore aujourd'hui. On arrive enfin à vraiment parler, enfin à faire un peu bousculer les choses. Je sais pas si je l'avais vu comme une mission, mais en tout cas j'étais contente de défendre le texte de Nathalie Marchac, parce que c'est un texte simple mais très très fort, et qui peut parler à tout le monde, aussi bien les jeunes que, ouais, que les parents, les grands-parents, voilà.
Et moi ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on disait avec Nathalie il y a un instant, c'est que on n'est jamais dans le jugement, on est dans les faits, on dépeint des faits dans son écriture, dans la façon dont vous incarnez Lila, mais on est toujours effectivement dans l'exposition des faits et la constatation. On n'est jamais dans le jugement ou dans le procès dans cette fiction. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'on informe avant tout.
Oui, oui, complètement. Bah, ça, c'est Nathalie, elle a réussi le pari.
Bon, quelle a été la scène la plus difficile pour vous?
Il y a eu deux scènes très compliquées. La scène physiquement violente,
ouais,
parce que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Et du coup, nous, acteurs, on essaie toujours de se rattacher à des choses qu'on connaît. Bah là, j'étais complètement dans l'inconnu, j'ai envie de dire tant mieux. Hein.
Ouais, oui, vaut mieux.
Mais du coup, c'est très compliqué d'essayer de rendre quelque chose de réel, vu que je ne l'avais jamais vécu. Une deuxième où là, je dis des aveux, et pareil, je n'avais jamais vécu ça, donc comment dire toutes ces choses, comment essayer de se faire entendre. C'était assez compliqué, mais Nathalie avait tellement un regard bienveillant que ça s'est très bien passé.
Mercredi, ça va être diffusé. Est-ce que vous vous apprêtez à recevoir des témoignages, des messages, des fois forts, des fois émotionnellement, qui vont peut-être vous dépasser? Est-ce que vous vous apprêtez à ça?
Eh bien, honnêtement, mais ça fait partie de mon caractère. J'ai tendance tout le temps et souvent à toujours tout minimiser et à pas me faire de plan sur la comète.
Ouais, être optimiste quand même.
Oui, oui, je suis très optimiste, mais j'ai tellement peur de tout le temps être déçue des résultats, parce que je mets tellement d'investissement que s'il n'y a pas de retour, au moins je suis pas déçue. Donc c'est vrai que je me suis même pas posé la question, mais c'est vrai que maintenant vous êtes en train de me dire ça, je me dis que c'est vrai, c'est possible, et si ça arrive, je prendrai le temps d'y répondre, parce que c'est un sujet important, mais comme... Ouais. Pour les autres projets, je prends tout le temps d'y répondre, parce que des personnes prennent le temps de nous écrire. ça me paraît important, si on a le temps d'y répondre, de le faire.
Mercredi, c'est la journée internationale du droit des femmes. Les siffleurs tombent à point nommé. C'est vraiment la fiction qu'il fallait dégainer pile poil le bonjour. Et là, vraiment, France Télévisions remplit sa mission de service public. On avait peut-être même du mal à imaginer cette fiction sur une autre chaîne. En tout cas, voilà, bravo à France Télévisions. Qui ouais. ose. On va évoquer les projets, Ludmila aussi.
Oui.
Lupin.
Là, ouais. C'est la saison 2 qui va sortir très prochainement. J'ai pas les dates exactes.
On a hâte.
On est sur le coup.
Bon.
Bah, moi aussi, j'ai hâte.
Vous incarnez le rôle de Claire, le rôle de Ludivine Sagnier, jeune, dans cette série Netflix, évidemment, qu'on va surveiller.
D'accord,
alors,
ok.
Alors, il y a aussi une autre aventure, Ludmila, The Voice. C'était samedi. Et là, les fauteuils se sont retournés. Donc, on a hâte de voir la suite de l'aventure. Mais c'est une nouvelle corde à votre arc qu'on découvre aussi. Ludmila, chanteuse.
Exactement, ça fait un moment que je chante, j'avais un peu mis de côté pour me concentrer sur le théâtre et le cinéma et The Voice est arrivé dans ma vie mais vraiment comme un cheveu sur la soupe, donc j'y suis allée cet été et je suis très très heureuse d'avoir fait cette aventure parce que c'était une expérience de malade.
Amel Bent comme coach, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il a été difficile déjà ce choix?
Le choix il a été difficile. Non, pas tant que ça. J'étais surtout stressée et un petit peu déconcertée de toute la situation. Je réalisais pas trop. Mais c'est vrai que Amel Bent avait des mots très rassurants. Et puis, je crois que comme c'est une femme et qu'elle est maman, il y a quelque chose qui m'a amenée vers elle et j'étais confiante en allant vers elle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Amel. Et puis c'est vrai que son univers me parle énormément. Ses musiques. Direction artistique, donc j'avais envie d'aller vers Amel.
L'aventure continue, maintenant on va voir les battles. Alors du coup, eh bien, tous les ans on essaie d'avoir un candidat qu'on suit évidemment et qu'on essaye voilà, de suivre tout au long de l'aventure. Donc on attend les battles, on se rappelle après, d'accord Ludmila? Comme ça, on essaye de
et
faire
ben,
un peu,
hein,
on se fait un petit suivi tout au long de l'aventure.
Débrief.
Ouais. Et puis on croise les doigts, on est à fond derrière vous. D'accord?
Bah, merci beaucoup, c'est très gentil.
Bon, eh ben on fait comme ça. En tout cas, c'est la semaine, hein, Ludmila Malkowski. C'est donc mercredi à 21h10 voilà. Dans les siffleurs. L'aventure continue très bientôt avec les battles dans quelques semaines dans The Voice sur TF1 et puis Lupin. L'année 2023 va être belle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à
merci
très bientôt.
Beaucoup. À très bientôt.
Et notre coup de cœur télé va être consacré au film Les Secrets de la Grotte qui sera diffusé samedi sur France 3. Et on avait promis d'être à leur côté, évidemment, même après la fin de Plus belle la vie pour tous leurs nouveaux beaux projets. Alors Laurent Kérusoré aussi est avec nous dans cette émission et fait du hasard, c'est Elodie Varlet qui nous rejoint. Bonjour Elodie.
Salut Alain.
Eh ben écoute, ça me fait plaisir de t'avoir pour Les Secrets de la Grotte. Tu partages l'affiche avec Samy Garbi pour une enquête rondement menée à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche. Et franchement, les paysages sont magnifiques.
Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tourné dans une région superbe que je connaissais assez peu et que j'ai découverte du coup en tournant là-bas. Alors, on a tourné dans une période où c'était à la fois, on a eu super chaud, super froid, de la pluie, enfin, ça a changé énormément. Donc, je salue au passage la post-prod qui a réussi à faire quelque chose d'unique malgré les différences météo du tournage. Et le rendu, je le trouve vraiment effectivement très joli au niveau de la région, ça donne envie.
Alors, tout commence évidemment par un meurtre, comme tous les bons polars régionaux que propose France 3 avec la découverte macabre d'une jeune fille en canoë qui va découvrir tout simplement une personne dans une position précise avec une pierre dans la jugulaire. Et donc, c'est le personnage de Samy et celui de Manon que tu incarnes qui vont devoir mener l'enquête tous les deux. Mais au premier abord, il y a un léger, voire un grand froid entre les deux enquêteurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Oui. Alors, il s'avère que effectivement Manon est de base à Grenoble. Elle rejoint l'enquête. Elle est amenée à faire équipe avec Riyad Lexir, qui n'est ni plus ni moins que le frère de l'assassin de ses parents. Voilà. Donc évidemment, ça va amener. On va dire que il y a un bon petit froid entre eux.
Oui.
Mais ils vont au fil de l'enquête, évidemment, il y a des éléments qui se raccrocheront en fait à l'ancienne à l'ancienne histoire qui les rassemble, qu'ils ont en commun, c'est-à-dire l'assassinat des parents de Manon, qui n'a pas forcément été mené comme il fallait.
Exactement, et peut-être que tous les secrets, en tout cas, de cette histoire n'ont pas été révélés, parce que si Manon tient pour responsable le frère de Riyad, est-ce vraiment lui? Lui s'est suicidé en pleine garde à vue, si je m'abuse, et donc automatiquement, ça sème le trouble, parce que si même elle, en tout cas, le tient pour responsable, est-ce vraiment lui? Est-ce que c'est une question à laquelle on va répondre, en tout cas?
Bien sûr, c'est une question qui va être soulevée tout au long du téléfilm et qui va du coup définir beaucoup les relations entre les deux enquêteurs et qui aura un impact sur le ou les meurtres qu'ils vont devoir élucider.
Comment tu la définirais, toi, Manon ?
Manon, c'est une femme assez libre, assez têtue et sentimentale, malgré elle.
Sentimentale malgré. Alors c'est pas le premier mot qui me serait venu à l'idée dans les premières minutes, ça c'est vrai. Mais
non,
elle sait ce qu'elle veut en tout cas.
Oui, elle sait ce qu'elle veut et elle se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Elle ne veut pas en fait laisser paraître quoi que ce soit auprès de ses supérieurs ou de son partenaire d'enquête. Elle veut faire face, mais elle est rattrapée par son passé en fait et par tout ce qui a entouré le point de clé de sa vie qui a été effectivement l'assassinat de ses parents quand elle avait 8 ans. Quand elle revient donc à Vallon-Pont d'Arc, notamment dans sa famille aussi adoptive, etc. Tout lui revient dans la tête avec ce meurtre qu'elle doit élucider et le partenariat avec Riyad Lexer. Donc elle va devoir aller de l'avant et se confronter, on va dire, à son passé. Et je dis sentimentale malgré elle parce que c'est par rapport aussi aux enfants. Elle a un rapport un peu aux enfants où elle fait la forte tête comme ça et elle fait très libre et en fait elle se laisse emporter par la douceur des filles, notamment de Riyad Lexir, qui va finalement lui permettre de s'ouvrir.
Alors il y a un tournant à un moment donné justement dans cette histoire entre Manon et Riyad. On va pas en dévoiler beaucoup plus, mais il y a vraiment un tournant où on a l'impression que la carapace de Manon se fend. C'est au moment où il arrête la voiture dans une patte d'oie face à l'ancienne maison et où il va mettre les pendules à l'heure, effectivement.
Exactement.
Riyad avec Manon, et on sent un tournant justement à ce moment-là entre ces deux protagonistes.
Il y a un tournant parce qu'il y a une prise de conscience
de Manon.
Je pense que Manon ne s'est absolument jamais mis à la place de la famille Lexir, c'est-à-dire de la famille de Riyad, assassin de ses parents, et elle ne s'est pas imaginé que eux aussi ont souffert et de la manière dont eux ont aussi vécu la mort de leur enfant ou de leur frère. Et pour la première fois, lui qui est au début assez gentil et fait attention à Manon, il va à un moment donné éclater, et c'est là où elle va réaliser qu'elle est un petit peu égoïste dans la manière dont elle prend les choses, puisqu'elle se met pas non plus à la place des autres. Donc à partir de là, il y a un respect qui s'en sort et aussi une curiosité de ce qui s'est passé aussi pour cette famille. De la part de Manon, elle va essayer de comprendre un peu mieux.
Un casting génial autour de vous. Serge Rabiot-King qui joue le rôle de ton père adoptif. On peut citer évidemment Éric Savin, Carole Richard, qu'on a tellement plaisir à voir aussi sur nos écrans. Anne Girouard également, qui joue le rôle de celle qui garde la grotte, le musée de la grotte. Il y a vraiment un très beau casting autour de vous deux.
Très beau casting, vraiment des personnes... Des super partenaires. Anne, elle était super. On a eu plaisir tous à être ensemble. Et puis, il y a toujours une saveur particulière quand on est en région, puisque on partage non seulement nos journées de tournage, mais un peu les soirées. Et il y a eu une très bonne ambiance sur ce tournage. Donc, j'espère que ça va se ressentir, parce qu'on était très heureux de faire ça. On était bien ensemble là-bas et l'équipe était assez idyllique. Donc j'espère que ça se ressentira.
Bon, t'as des projets pour 2023? Qu'est-ce qui nous attend, Élodie? Est-ce qu'on va te voir bientôt au théâtre, cinéma, télévision? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent un petit peu à l'horizon?
Je tourne pour un autre téléfilm, pour Fonce 2 cette fois-ci, qui s'appelle À fleur de peau, avec Flore Bonaventura et Raphaël Langlais.
Que t'embrasseras très fort, Flore.
Écoute, très bien, ça sera fait, je la vois demain. Donc, je lui dirai. Donc ça, c'est un super rôle aussi, qui est encore très différent de ce que j'ai eu à faire jusque-là. Donc, je suis ravie d'être sur ce joli film, parce que c'est un thriller assez psychologique, réalisé par Christian Bonnet. Et voilà, et après, en fin d'année dernière, j'ai commencé à faire un petit tournage pour une série pour TF1, et normalement, la la série se poursuit cet été. Donc voilà, des petits projets, et puis après des projets d'écriture, des projets perso, plein d'envie.
Bon.
Et plein de... Mon temps est bien rempli. Ne t'inquiète pas, alors.
Eh ben, écoute, comme ça, ça te permet de revenir régulièrement dans Chute, on écoute la télé, tu sais que t'es à la maison.
Ouais, je sais bien, et c'est très agréable.
Bon, dernière petite question, évidemment, sur Plus belle la vie. Depuis la fin de la série, les rumeurs enflent autour d'un retour éventuel. La SCOP, qui en tout cas défend le projet du retour, espère toujours et convaincre en tout cas aussi Newen de lui céder les droits. Est-ce que toi tu serais partante en tout cas pour si la série revenait pour reprendre même épisodiquement ou de façon événementielle le rôle d'Estelle?
Bien sûr, après il faut encore une fois ce projet paraît assez fou et je sais vraiment pas si on peut compter là-dessus parce que tout simplement il n'y a plus les décors. Moi j'ai la sensation que s'ils avaient dû céder les droits, peut-être qu'ils l'auraient déjà fait. Ça a tendance à s'étirer un petit peu en longueur, donc malheureusement j'y crois de moins en moins, j'avoue.
Bon, on termine en embrassant les frères Bernard qui produisent cette fiction chez Adrénaline,
oui,
qu'on embrasse, et puis Christelle Reynal à la réalisation également.
On aime beaucoup. Oui.
Merci beaucoup.
Et bravo à elle d'ailleurs. Elle a mené ça avec brio. Donc bravo à Christelle.
Avec de très belles images, vous verrez. Secret de la grotte, c'est samedi donc à 21h10 sur France 3. Rediffusion de Plus belle la vie dès lundi prochain, 12h45 sur Chérie 25. On va en avoir, je vous le dis, de Élodie Varlet à la télé. Ça va nous faire du bien. Très vite. Merci beaucoup, Élodie.
À très vite, merci Alain, salut.
Je vous présente le capitaine Riyad Lexia, vous allez faire équipe avec lui.
Je crois qu'on se connaît déjà.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle.
C'est pas l'expression que j'utiliserai.
Commandant, je peux vous parler?
Excusez-nous.
Je ne vais pas pouvoir travailler avec elle.
Pourquoi donc?
C'est compliqué à expliquer.
Compliqué, quoi compliqué?
Compliqué.
Ce que le capitaine Lexia n'arrive pas à vous dire, c'est que son grand frère a assassiné mes parents quand j'avais 8 ans.
Non.
Et on se retrouve dans un instant pour la suite de Chute, on écoute la télé avec Lucien Jean-Baptiste, Elena Noguera pour BDE et Alexandra Redamiel, responsable et directrice des divertissements et des programmes de flux de France Télévisions. À tout de suite.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, BDE, c'est le film en ce moment sur Amazon Prime. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous allez beaucoup rire et on va continuer à en parler cette semaine avec Elena Noguera et Lucien Jean-Baptiste qui sont avec nous, qui jouent les rôles de Roman et Max. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Un film complètement déjanté. On rit du début à la fin. Un rythme effréné. Vous avez dû vivre un tournage endiablé, tous les deux.
En effet, c'était endiablé, endiablant, magnifique, magnifiant. À toi.
Voilà, c'est vraiment ça. C'était une super aventure. J'aime à dire, vous savez, il y avait une très belle phrase. Alors, je sais pas combien de temps ce que je vais dire va durer, mais on va essayer de faire court. Il y a Coppola qui avait dit, il avait fait une conférence de presse après le tournage d'Apocalypse Now, et il avait dit ce film n'est pas sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Eh bien, ce film, c'est pas une histoire sur les fous, mais c'est une histoire de fous. C'était magnifique. Et surtout, et j'insiste là-dessus, ce film est une incroyable histoire d'amitié. Vraiment, j'ai ressenti ce truc.
C'est vrai, c'est une histoire vraiment de quatre amis où l'amitié est indéfectible au fil des années et qui aiment à se retrouver tous les ans pour faire perdurer en fait leurs années lycée, leurs années fac en quelque sorte.
Oui, oui.
Bah, ils ont gardé leur âme d'enfant. C'est ça qui est génial.
Voilà, vous avez bien dit, c'est ça. Mais je sais pas quoi trop rajouter.
Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans le scénario de Michael, justement, quand vous l'avez lu? Qu'est-ce qui vous a en premier subjugué?
Moi, c'est l'aventure avec Michael. Parce que j'avais eu la chance de tourner avec lui précédemment et je sais que c'est un bosseur et que ça allait aller très loin. Moi, je suis plutôt réservé, timide.
C'est vrai.
Voilà, dans mes films en tout cas. Et là, c'est l'occasion d'aller lâcher, d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables comme Elena avec qui on avait déjà tourné un film Turf, voilà, il y a quelques années. Et on s'est retrouvés et c'est très très agréable.
C'est ça, c'est un film sur l'amitié. C'est aussi un film transgénérationnel où il y a un passage de relais entre les anciens et les plus jeunes.
C'est une espèce de choc des générations, finalement, entre les diplômés de 2021 et puis ceux de 2001, dont vous faites partie. La transmission, c'est vrai.
La transmission des fêtards, ça se transmet.
Oui, c'est ça.
Il y a une bande-son qui est énorme aussi. Moi, j'adore la scène de la voiture où vous chantez à tue-tête. Et là, évidemment, ça c'est... faut laisser plein de surprises, mais en tout cas, on va pas dire les titres que vous chantez, mais franchement, il y a des titres qui, finalement, cette année, en 2023, ont pas pris une ride. La scène qui vous a le plus marqué?
Et tu vois, je suis chiant, mais enfin, je suis très ennuyeux parce que je reviens sur ce télécabine. On était là-haut tous les quatre.
Vous êtes resté combien de temps là justement?
Oh là là, je sais pas, longtemps en tout cas.
Une nuit.
Voilà, une nuit. Et je sais pas, on était entre. Moi, j'aimais bien quand on était entre nous. Oui. C'est bizarre, hein.
Tous les quatre.
Ouais, tu parce que sinon, quand il y avait plein de monde, alors là, là, c'est tu vis le truc. Enfin voilà, une gestion. T'as vu le film? Il y a tellement de monde, de figurants et tout ça. Donc ça faisait vraiment du bien se retrouver à quatre, de prendre le temps de se dire les choses, tout ça. Non, c'était palpitant.
Le ouais. calme de la nuit.
Et donc c'était ouais. ça ma scène préférée dans les télécabines ouais. avec mes quatre amis à se parler, à se dire les choses. Voilà.
Moi j'aimais bien engueuler les méchants, les quatre gitans là. Ah quand ouais. je oh dis ah oh, même pas peur,
oh
il va t'arracher la gueule. Voilà, ça, j'aimais c'est... bien ça, dire c'est... ça.
Ah ouais. Ouais. Et puis, très belle scène. Jean-Luc Couchard et Pierre Lottin sont ouais. sont excellentissimes dans ces rôles-là en plus.
Ouais, ils sont fantastiques.
Franchement, j'ai l'impression que vous nous avez fait passer un bon moment, évidemment. Mais vraiment, l'impression qui en ressort général, c'est que vous avez passé, en tout cas, de très bons moments. Donc voilà, je suis content de voir que effectivement, il y a plein de choses qui en ressort de ce tournage. Et il se passe plein de choses. Vous allez voir, le rythme est effréné. Vous, quand vous l'avez vu monter la première fois, c'est ce qui vous a surpris en premier. Justement, c'est l'amitié qui transpirait. Du coup, tu disais, toi, Lucien.
Pour moi, oui, vraiment, j'ai dit, tiens, c'est un aspect du film, tu vois, je pensais que c'est que de la déconnade, etc. Ben non, les films transpirent toujours leurs auteurs et je sens que finalement, Michael dit beaucoup de choses sur ce qu'il est, sur son envie d'amitié, sur son besoin d'être entouré, tout ça à travers ce film. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti ça, j'allais pas regarder le montage, machin, je m'en fous. Ce qui m'est resté, j'ai dit, tiens, tu vois, le mec, il a besoin d'être entouré, il aime bien faire la fête, on sent. J'ai dit, ça parle beaucoup de lui finalement. Non, parce que ce garçon a une image de petit hystérion comme ça, et il a quand même pas mal de profondeur. Bizarrement qu'il exprime de façon très étrange. Mais tu vois, il pourrait se dire, bon, je fais un film, c'est que de la déconne, pas besoin de parler de cette histoire d'amitié. Ben non, il en a besoin. Ouais. Qu'on lui dise on t'aime, qu'on lui dise on est avec toi, qu'on sait très bien tous les efforts que tu fais pour que tes copains jouent dans tes films, pour que tu fasses des films depuis tant d'années. Voilà, il a besoin de ça.
C'est vrai, Elena la caisse. si on Amazon Prime Video veut le succès planétaire que va faire BDE, parce que l'avantage d'une plateforme c'est que vous allez être vu dans le monde entier, il leur prenait d'aventure de vouloir faire un 2. Est-ce que vous seriez partant, vous, en tout cas?
Oh oui.
Bah oui, avec joie.
Ah oui, 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 alors là, demain matin. Hein, Michael, pour le 2. Pour le 2, c'est bon, moi j'ai dit oui, hein. C'est à Ibiza, le 2 est à Ibiza, voilà.
Ah bah voilà. Et bah au moins déjà, c'est quasiment signé. Vos projets pour 2023. On va terminer avec ça tous les deux. Je sais qu'il y a pas mal de choses du côté de Lucien, mais d'Elena, je n'en doute pas non plus.
Alors Lucien va faire un film
avec Elena dans le premier rôle, mais on attend une petite défection.
Je vais me faire remplacer dans le film de Lucien parce que je vais au théâtre, mais il vous en parlera là dans 2 minutes. Donc il va faire donc ce film formidable dans lequel je devais jouer, mais c'est Zabou qui.
Tu y seras de toute façon. Tu sais, on a conclu un deal hier. Parce que moi, je bois, je machin, je fais la fête, mais j'oublie pas. Ouais. Et il y a déjà ce petit ouais. deal.
Je suis en photo dans son film.
Voilà, déjà c'est pas mal.
Allez, c'est formidable. C'est mes débuts dans le cinéma de Lucien Jean-Baptiste.
Pas parti trop vite.
C'est ça. J'y vais, je débute, quoi.
Voilà, voilà.
Mais sinon, je vais au théâtre. Moi, je joue au théâtre du Rond-Point à Paris, une pièce qui s'appelle Un dernier rêve pour la route, que j'ai écrit. Ouais. Et qui est joué par Christiane Coendi, qui est une grande dame du théâtre, Pierre Note, qui est un auteur fantastique, et Romain Brault, qui est une créature qu'on a découvert chez Madame.
Dans les crevettes pailletées aussi.
Et j'allais le dire, bravo, dans les crevettes pailletées. Voilà.
Génial, ça. Et ça va partir en tournée? On aura peut-être la chance de le voir dans nos régions aussi?
Oui, on sera en tournée, mais alors, septembre, décembre, ne nous trompons pas, 24 déjà. Oui, c'est ça. Le théâtre, on est toujours un peu très très en avance. Donc on joue là en juin au Rond-Point à Paris et on tourne en 24.
Génial.
Voilà.
Lucien?
Ben j'attends mon rôle dans la pièce.
Tu devrais tourner pas loin de chez nous, dis donc.
Lui, elle écrit pour lui, elle. Alors que moi, je rien. Ouais, ouais, ouais. J'ai mon prochain long. Là, ça fait 2 ans et demi que j'attends. Avril-mai, tournée. Je suis encore en train de faire le casting. Donc prochain long. Le titre, ça s'appelle Et maintenant, l'histoire de 3 pieds nickelés qui vont tenter une aventure de dingue. J'essaye de faire une comédie humaniste à la Capra. Qu'on prenne qui pourra. Voilà, voilà sur les les gens qui se battent et essayer de faire que l'humanité qu'on a en nous prenne le devant parfois sur l'argent, tout ça. Voilà, je vais essayer de raconter cette histoire-là.
Une comédie qui va faire du bien, je le sens.
Oui, Inch'Allah.
comme tu sais si bien les faire, en tout cas Lucien, on le sait, et on est là pour chacun de tes aventures aussi. Merci en tout cas tous les deux d'avoir été avec nous pour nous reparler de BDE. Et c'est sur Prime Vidéo que vous pouvez aller voir le film. On va se quitter avec un extrait. Merci à tous les deux.
Salut.
Salut, merci.
Un appel masqué à 7h.
Décrochez, c'est peut-être quelqu'un d'important.
Raphaël Nadal.
Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter.
Tant qu'il n'a pas acheté, c'est pas Ibiza dans mon chalet.
C'est bon, j'ai réussi à me libérer. Opération Bioman lancée.
La vue, mes potes, la vue.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler flux et divertissement, jeu pour France Télévisions avec Alexandra Redamial qui est avec nous et qui va nous parler évidemment de tous les projets de France Télévisions. On va parler de l'Eurovision qui se prépare avec Lazara. Il y a plein de belles choses en tout cas pour France Télévisions qui se portent plutôt bien du côté divertissement. Bonjour Alexandra.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Il y a eu des cartons ces derniers mois. Prodige qui a été un très gros succès pour les fêtes de fin d'année, qui est maintenant un rendez-vous incontournable. Mais on pourrait évoquer Fort Boyard qui a plus de 30 ans d'existence et en plus tourné chez nous. Il y a tellement de beaux programmes de divertissement, de jeux ancrés, le carton de N'oubliez pas les paroles. Aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes fiers quand même.
On est très fiers à France Télévisions parce que l'idée, c'est de continuer à mettre sur nos antennes nos marques historiques, hein, en essayant de les moderniser, en essayant de continuer à les faire grandir, et à la fois la création. Je crois que c'est vraiment nos deux visions qui sont extrêmement importantes. C'est continuer à faire perdurer nos marques et continuer à créer sur France Télé. Et c'est vrai qu'entre Fort Boyard, Prodige qui a fait un exploit cette année avec des scores absolument incroyables, Fort Boyard qui, pareil, on a revisité d'ailleurs, c'est très intéressant, mais quand on a des formats qui ont une trentaine d'années, on est obligé de les faire réétudier par nos téléspectateurs pour voir comment ils réagissent. Et grâce à nos téléspectateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer sur Fort Boyard, ce que l'on a fait l'année dernière, et le programme a été explosif en termes d'audience. Donc c'est très important, on est des vrais partenaires avec nos téléspectateurs. Et puis on a lancé des nouveaux jeux, on a fait le quiz des champions avec Cyril Ferron, on a lancé aussi 100% logique, la réponse est sur vos yeux, en prime time sur France 2, ça marche, on est très heureux, le jeu s'installe sur France Télévisions, et puis encore une fois les divertissements sont événements avec le 31 décembre, pareil, qui a réuni beaucoup de monde, le gala des pièces jaunes encore dernièrement. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être la chaîne de l'événement. Et puis j'en oublie parce qu'on a tellement de nouveaux projets. Je pensais aussi, parce qu'on est dans les Charentes-Maritimes, je crois que je vois le grand concours des régions qu'on a lancé avec les danses folkloriques, qui a été salué par le public sur France 3, avec Cyril Ferraud encore une fois. Là, on va tourner dans peu de temps d'ailleurs à Strasbourg la deuxième édition. Je peux même vous dire qu'on est en train de travailler sur une version des chants folkloriques aussi. Parce que voilà, je crois que la France n'a jamais été aussi mobilisée que quand on parle d'elle.
Il y a des formats qui marchent très très bien, Village préféré des Français par exemple, aussi dès qu'on s'attaque aux régions, alors c'est côté France 3 évidemment pour ça, mais est-ce que toutes ces marques vont revenir, Village préféré des Français, une nouvelle édition pour ce printemps, évidemment j'imagine.
Ah, c'est des marques, ce que j'appelle iconiques, les Français l'attendent, que ça soit les villages préférés, les monuments préférés, Stéphane Bern est là, il porte ce patrimoine, il porte cette France plus que jamais, et pour nous
c'est... tellement bien.
Et qu'il connaît tellement bien et qu'il aime, que oui, ce sont des marques emblématiques qui sont des vrais rendez-vous pour les Français et qui vont revenir.
Alors un gros morceau, c'est l'Eurovision. Alors il y a eu l'Eurovision Junior aussi qui a vu couronner notre chère tête blonde française pour le coup. J'imagine que l'Eurovision Junior l'année prochaine, vous êtes en train de travailler peut-être pour que ça soit en France du coup.
J'ai annoncé, le jour de notre victoire en Arménie, à Yerevan, j'ai annoncé que nous organisons le prochain Eurovision Junior en France. Donc on est en train de travailler sur les différents lieux, où est-ce qu'on pourrait le faire. Tout ça n'est pas encore validé, donc je n'en parle pas. Mais en tout cas, on a très envie de pouvoir le faire en France, donc on est en train de regarder ça. Mais en tout cas, on va accueillir entre 18 et 20 pays en 2023. Donc deuxième victoire pour l'Eurovision Junior. Et puis on se met en marche parce qu'on aimerait bien gagner le grand.
Le concours Eurovision au mois de mai qui aura lieu, c'est Lazara qui va défendre nos couleurs. Je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché, cette Eurovision, Alexandra, et que vous portez tous les ans, évidemment, avec celui qui va représenter nos couleurs. Et c'est vrai qu'on y croit. On espère, en tout cas.
Je crois que l'Eurovision, c'est une marque absolument... Déjà, faut que vous sachiez que l'Eurovision, c'est la, en termes d'audience, c'est la marque la plus forte du, des divertissements pour France Télévisions. C'est une marque aujourd'hui qui est magnifique, qui est celle de faire rayonner la culture française en Europe. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions comme ça. Et c'est pour ça que je le porte au-delà du côté professionnel, je le porte vraiment dans le cœur parce que je pense qu'on a une culture qui est absolument fantastique et qu'on ne fait pas assez rayonner. Et donc, j'ai cette envie de gagner pour montrer à quel point la France est là, la France est présente. Plus on gagnera, plus la France sera mobilisée et plus l'Eurovision sera important et la marque Eurovision comptera dans la vie des Français. Donc je me bats pour la gagner et je me bats pour faire rayonner la France en Europe.
N'oubliez pas les paroles. Un succès incroyable. Et plus le programme vieillit, plus il y a de temps qu'il a l'antenne, plus les téléspectateurs augmentent. Comment expliquer ce succès phénoménal qui aujourd'hui a permis de remettre d'ailleurs toutes les soirées karaoké en France au goût du jour?
Je crois qu'on a, on oublie parce que la vie va vite, qu'on a traversé une période qui s'appelle le Covid, qui est une période qui finalement nous a tous mis un peu dans un état glauque. Je crois que le mot est ça. Et Nagui a cette grande force avec une émission qui est finalement iconique, encore une fois, d'être le rendez-vous, ce que j'ai envie de dire, du petit bonheur. C'est-à-dire, on chante, on s'amuse. Nagui est toujours là pour nous mettre de la bonne humeur, etc. C'est un rendez-vous. Finalement, c'est un rendez-vous avec les Français. Un petit moment de bonheur dans une journée. Alors, il y a plein d'autres émissions qui apportent du bonheur. Mais je crois que ce rendez-vous-là et ce format-là est complètement iconique parce qu'il est addictif. On a envie de savoir. On a envie de savoir qui va gagner. On retrouve nos champions. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, Nagui réussit à fidéliser ses téléspectateurs chaque jour. C'est, je lui dis souvent, le roi de l'access.
C'est vrai. Les grandes nouveautés de ce premier semestre 2023, à quoi peut-on s'attendre d'ici le mois de juin? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver à l'antenne? Et est-ce que vous travaillez peut-être sur des futurs projets pour la rentrée aussi?
Alors, c'est pas des nouveautés, c'est des nouveautés qui vont continuer d'exister. Par exemple, que ça soit 100% logique, que ça soit le quiz des champions. Les jeux vont revenir en 2023, plus fort que jamais d'ailleurs. On a des nouveautés, on a des nouveaux jeux qu'on est en train d'acheter, dont je parle pas tout de suite parce que tout ça est encore en discussion. Mais il y a des jeux qui arrivent et puis il y a des gros événements aussi qui vont arriver. Je crois que le divertissement doit être l'événement et donc on est en train de réfléchir à des belles choses pour pouvoir offrir à nos téléspectateurs ce que j'appelle un peu des cadeaux, ce que je fais d'ailleurs sur le 31 décembre ou sur la fête de la musique, offrir des gros événements, ce qu'on a fait d'ailleurs avec Paul Naref ou la spéciale Johnny, des gros primes qui permettent finalement de retrouver cette culture française à travers des artistes emblématiques.
Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous. En tout cas on retrouve voilà plein de beaux programmes et puis l'Eurovision évidemment qu'il ne faudra pas rater.
On est en train de tourner la saison 2 de Drag Race qui est, vous le savez, parce que la plateforme on a lancé sur le france.tv/le Drag Race France saison 1 qui a été un grand succès et donc là on est en train de tourner la saison 2 et d'ailleurs il ne sera pas que sur la plateforme mais sur la seconde partie de soirée de France 2.
Voilà, des belles choses qui arrivent. Et puis France.tv aussi, c'est la plateforme qui monte hein, au fur et à mesure. On imagine qu'avec la disparition de Salto dans les mois à venir, c'est plus un secret. Malheureusement, que effectivement la plateforme France.tv sera l'objet de nombreuses exclusivités, de nombreux bonus de France Télévisions.
Exactement, je crois qu'aujourd'hui, la présidente Delphine Ernotte, Stéphane Sibon-Gomez, ont vraiment cette envie de mettre à l'honneur la plateforme France.tv/. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il va y avoir des petites pépites qui vont arriver sur la plateforme. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir à des vecteurs de diffusion. On a beaucoup de chaînes, mais aujourd'hui, c'est à qui l'on parle, quel est notre public et comment est-ce qu'on réunit les publics, parce que je crois que le média, et en tout cas notre média de France Télévisions, doit être le lieu de la réunion de la famille avant tout.
On a tellement de choses à dire. C'est passionnant, en tout cas, de parler ensemble, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes de divertissement et des jeux de France Télévisions. À très bientôt.
Et à très bientôt et ravie d'avoir été dans la région. C'est magnifique. On vous adore.
lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, nous fêterons ensemble la sortie du film Sage Homme avec Jennifer De Volder, sa réalisatrice Melvin Boomer et la scénariste également du film seront avec nous. On va également parler de Meurtre à Pont-Aven. Odile McDonald, la productrice, viendra accompagner de la réalisation mais aussi d'Alexandre Brasseur qui sera notre invité à ne pas manquer. On évoquera aussi bien sûr Maman a disparu, la nouvelle fiction signée France Télévisions et puis la toute nouvelle série de TF1 Prométhée avec son héroïne Fantine Ardouin qui sera donc présente avec nous. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore lundi prochain.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.